Brasil e Alcácer Quibir. El Rei Dom Sebastião. Perdeu-se num labirinto com seu cavalo real. As bruxas e adivinhos das altas serras beirãs juravam que nas manhãs, cerrado no voeiro, vinha Dom Sebastião. Pastoras e trovadores das regiões litorais afirmaram terem visto, perdido entre os pinhais, é o rei Dom Sebastião.
La chanson Je sais Cid. Cette chanson date de 1967 et à l'époque c'était un groupe Quartet 1111. André Bell, bonjour et merci d'être en direct avec Radio Alpha.
Bonjour Arthur, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Voilà, alors c'est exprès que j'ai passé cette chanson puisque si on est dans le mythe, si on est en train de, on sait pas, on attend toujours ce fameux matin de brouillard, il va arriver par le Taj, etc. J'ai été bercé là-dessus parce que je suis né au bord du Taj, mais enfin. Alors tout ça au sujet, ça vient à propos. Le roi Sébastien de Venise, histoire d'une rumeur, qui a été édité par Chandaigne, et d'ailleurs c'est tout récent, hein. C'est ce mois-ci, André Bell. On peut dire finalement, ce livre-là, c'est une chose, bon, on peut dire c'est une enquête historique, mais en même temps une enquête policière, oui.
Oui, bon, oui, on peut comparer à une enquête policière, enfin c'est une image, mais oui, j'ai essayé, oui, dans le texte, dans l'écriture, de donner... quelque chose, des détails, d'une recherche aussi, pour savoir une vérité. On peut comparer, oui.
Il faut dire que l'ouvrage commence par un point final. C'est le cas de le dire, ni plus ni moins. C'est-à-dire, peut-être ce point final, parce que je ne dis pas que l'ouvrage commence par qu'on sache exactement qu'est-ce qui va se passer, mais vous avez mis un certain nombre de points sur des i.
Oui. Oui, et c'est lié à la question de la mort du roi Sébastien dans la bataille d'Alcácer Quibir, et ce mystère dont on parle toujours sur la mort ou sur le fait qu'on n'aurait jamais trouvé le corps du roi. Et ma recherche part exactement du constat que je n'ai pas été le premier à faire. Que la mort du roi a été bien établie à l'époque par les témoins et ça a été officiellement attesté et nous n'avons aucune raison de mettre ça en question, donc j'ai voulu partir de ça pour après. Donc quand on établit ça, qu'est-ce qui reste, sur comment est-ce qu'on peut étudier d'une façon différente peut-être l'origine du mythe sébastianiste.
Voilà, et bon, et après la deuxième partie, là, on rentre dans le dur, hein, c'est le cas de le dire, fameux ce roi Sébastien de Venise. Alors, ça, c'est étonnant parce que vous avez réussi à trouver des documents, parce que finalement, c'est quelque chose que c'est... Bon, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, etc., ce faux roi Sébastien, à l'époque, ça... Parce que, bon, il faut dire... Bon, ben, peut-être on va revenir un petit peu en arrière. 1578, voilà. Bon, donc c'est la bataille de Alcácer Quibir. Mais attention, parce que ça, c'est le nom portugais. Pourquoi est-ce que les Portugais ne parlent pas de la bataille des Trois Rois? Il y a un problème avec ça?
Oui, enfin, je pense qu'il fait un indice de cette difficulté à accepter la mort du roi. Parce que, bon, en France et dans d'autres pays... Bon, il faudrait faire l'histoire de comment cette bataille s'est appelée. J'ai pas fait ça, mais j'ai l'impression que quand même elle est plus connue ici en France, par exemple, comme la bataille des Trois Rois, par le fait assez mémorable que trois rois, deux princes marocains et un roi portugais, sont morts
dans
cette bataille. Et au Portugal, le fait qu'on ne dise, on ne parle pas, on ne la connaisse pas par ce nom, mais par le nom de la ville la plus proche, Alcácer Quibir, pour moi, c'est un indice exactement de ce refus ou difficulté à accepter la mort du roi dans la bataille.
Mais André Barlow, en même temps, il faut aller au contexte de l'époque. Parce que derrière la mort de Don Sebastian, il y avait la question de l'indépendance du Portugal, la question de succession à la couronne du Portugal.
Oui. C'est pour ça que voilà, la bataille est importante, elle est tragique, si on peut la définir comme ça, pour le Portugal et pour ceux qui étaient nombreux, qui voulaient avoir une dynastie portugaise. Et donc, on savait très bien, d'ailleurs, avant la bataille, qu'il y avait un grand risque dans le fait l'entreprendre et que le roi, et surtout que le roi y aille en personne combattre parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et donc, le risque, il était dans tous les esprits quand la bataille a été, quand l'expédition a été lancée.
Alors, je ne vais pas raconter les péripéties, ça concerne les restes mortels, à savoir les os dans ce bastion qui serait au Panthéon portugais. Enfin, laissons ça de côté, parce que finalement, si on comprend bien, c'est que derrière la disparition, la mort de Don Sebastian, il y a tout un imaginaire qui s'est créé, parce qu'il n'a pas été innocent, ça a été utilisé pendant des siècles et des siècles, et même jusqu'à Saint-Lazare, non?
Oui. C'est une histoire très longue, très vaste, et je ne la raconte pas en entier. C'est la première partie du livre, enfin, surtout le premier chapitre.
Ouais.
J'essaie de faire une espèce de généalogie de certains usages du sébastianisme. Et donc, voilà, c'est une histoire très ancienne qui vient jusqu'au XXe siècle. Et de là vient aussi cette familiarité que vous avez décrite au début et que moi-même j'ai vécue. Cette familiarité avec un personnage qui reviendrait par un matin de brouillard. Moi aussi, je viens de Lisbonne et j'ai grandi avec cette anecdote qui dure jusqu'à aujourd'hui et qui montre qu'il y a eu cette histoire, elle a été répandue au début, au milieu, enfin, la deuxième moitié du 19e siècle. Oliver Martins, grand essayiste et historien, il a décrété la mort du sébastianisme, parce que le sébastianisme était une tradition populaire de croyance au retour du roi Sébastien, du vrai roi, enfin qui serait vraiment en personne de retour même à la fin du 18e ou 19e siècle. Or, il se trouve que cette prophétie de la mort du sébastianisme, elle est totalement fausse, elle s'est révélée fausse parce que il y a eu un usage important politique et littéraire, le plus connu peut-être est le cas de Fernando Pessoa dans Mensagem, qui est un poème sébastianiste, d'inspiration sébastianiste. Et il y a eu beaucoup d'écrits, de textes, d'œuvres d'art, d'essais qui ont glosé ce mythe pour obtenir des résultats idéologiques. Et d'ailleurs, dans les années 60, dans cette opposition au salazarisme, une des questions était comment est-ce qu'on peut se libérer du sébastianisme qui était considéré comme un peu comme la saudade, un trait du peuple portugais. Et j'ai encore récemment lu un poème et une phrase de Nathalie Correia, l'écrivaine, et qui disait, elle était persuadée que les Portugais étaient sébastianistes dans l'âme. Moi, je n'y crois pas trop, mais c'est important de le comprendre dans cette époque.
André Barlow, à propos de Nathalie Correia, elle avait écrit une pièce en 1960, O Incuberto. Bon, le fascisme l'a interdite. Mais rapidement, votre réaction, vous le citez, Antonio Sergio. Je lis, Don Sebastian a été le premier des imbéciles modernes.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Oui, ça veut dire, c'est dans le contexte, dans les années 20, Antonio Sergio a été peut-être le plus connu des anti-sébastianistes pédagogues, historiens. Il a combattu le sébastianisme, justement à une époque, même avant Salazar, ou au début de l'État nouveau, et même avant, il y a ces débats sur le rôle de Sébastien, du roi Sébastien, et il y a des gens comme Antonio Sérgio qui s'opposent, il y a une polémique qui a été appelée la question svastika, qui s'oppose à ces usages et qui considère que tout ce mythe était nuisible, il était mauvais, il avait des résultats. Il incitait à une paresse critique des Portugais qui finalement n'affrontaient pas leur passé, ne le gardaient pas en face. Et il considérait, voilà, que le roi Sébastien avait été un très mauvais roi, qu'il avait fait toutes les erreurs possibles et imaginables, qu'il n'avait pas su conserver son royaume, et donc qu'il fallait le critiquer. Il a critiqué avec un langage très fort, je pense qu'il a inégalé.
Tout à fait. Alors, c'est peut-être pas pour rien que le tombeau du roi Sébastien est juste à côté de celui de Fernando Pessoa. Mais enfin, André Bell, on n'a que survoler votre livre parce que bon, parce qu'il y a il y a des pages et des pages très intéressantes parce qu'on se balade d'un pays à un autre, justement autour de fameux roi Sébastien de Venise. Là, on pourra faire une interview uniquement sur lui et le contexte de l'époque. Une dernière question, je demande une réponse rapide, je m'excuse. Est-ce que la révision des aillés a réglé le problème de sébastianisme ou pas?
Je pense, d'une certaine façon, oui. Je pense qu'elle a contribué à ouvrir la société portugaise vers le présent et le futur et pas le regarder un regard tourné vers le passé. Et donc, je pense que c'est le début. Je ne sais pas si du sébastianisme, mais le début, en tout cas, de la fin de l'usage nationaliste du mythe sébastianiste qui était la caractéristique principale du XXe siècle, je dirais, malgré Antonio Sergio.
Voilà, tout à fait. André Bell, merci. Donc, je rappelle, vous êtes historien, vous enseignez à l'Université de Rennes et vous êtes spécialisé dans le domaine de l'histoire de l'information. À l'époque moderne, il va falloir qu'on puisse débattre cette histoire-là d'information. Aujourd'hui, ça laisse beaucoup à désirer. Alors, le roi Sébastien de Venise, histoire d'une rumeur, publiée par Chandaigne. André Bell, merci et à très bientôt.
Merci beaucoup.